C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Kelly Nkouté.
Bonsoir, élection 2011 en RDC à 10 jours de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives. Quel bilan dressé du processus électoral? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 1er septembre 2011. Pour en parler, je reçois dans cette émission le professeur Charles Ndjoli, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Arsène Mouaka, il est professeur et coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, Kéline.
Le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir à vous.
Vous êtes déjà très nombreux, comme d'habitude d'ailleurs, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de l'ingénieur Gombo Augustin de Mbandaka, l'Équateur. Je crois que le processus électoral avait bien commencé, mais aujourd'hui, la réticence des membres du bureau de la CENI à procéder à l'audit du fichier électoral pose problème. À mon avis, le serveur central est un outil très capital qui gère les élections. Il est tout à fait normal que les acteurs du processus électoral en fassent l'audit. La CENI doit être à l'écoute de toutes les parties dans le pilotage du processus pour éviter des suspicions. Daniel Makila Katani, depuis Brazzaville au Congo, à mon humble avis, tous les partenaires au processus électoral doivent respecter l'indépendance de cette institution. En cas d'insatisfaction suite à une revendication, les cours et tribunaux restent la seule piste pour départager la CENI et ses partenaires. Tout recours aux voies des faits est condamné, car il dénote l'existence des agendas autres que des objectifs de démocratie. Merci de nous suivre à Bukavu sur la 95.3 et partenaire d'ici sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme vous le savez, dans plusieurs villes du pays aujourd'hui, les militants de l'UDPS sont descendus dans la rue ce jeudi pour exiger à la CENI la transparence du processus électoral. À Kinshasa, par exemple, partie de la 10e rue limitée dans le calme, la situation a dégénéré au niveau de l'hôtel de ville. La police a dispersé les manifestants, des jets de pierres, des tirs en l'air et des gaz lacrymogènes ont suivi. Quelques véhicules ont été brûlés et plusieurs personnes blessées et interpellées. Michel Kifindangoy pour le reportage.
10h30, début de la manifestation au secrétariat général de l'UDPS à la 10e rue Lumeti. Plus d'une centaine de militants ont pris d'assaut le boulevard Lumumba en direction du siège de la CENI à Gombe. Plus ils avançaient, le nombre devenait croissant. Banderoles et drapeaux des différents partis politiques proches à Étienne Tshisekedi à la main, les manifestants ont observé le calme jusqu'au niveau du marché central. La situation a dégénéré lorsque la police a tenté d'empêcher les manifestants de passer par l'hôtel des villes. Déviant vers l'avenue du commerce, les manifestants ont essayé sans succès d'accéder sur le boulevard du 30 juin. La police a tiré en l'air et lancé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Ils vont alors riposter par des jets de pierres. Pendant ce temps, les cadres de l'UDPS tentaient d'appeler leurs militants au calme. Quelques véhicules ont été brûlés ou endommagés. On note également des blessés. La police a procédé par la suite à des interpellations et arrestations, parmi lesquelles on signale deux journalistes d'une chaîne de télévision de Kinshasa. Ces derniers ont été libérés quelques heures plus tard.
Merci Michel pour ce reportage signalant que l'UDPS exige la publication dans l'immédiat de la CENI de la liste et la cartographie des 73 000 bureaux de vote province par province, circonscription électorale par circonscription électorale, en précisant le numéro de code, la commune, le territoire, la collectivité et l'adresse. Elle exige aussi la publication de la liste des électeurs retenus bureau de vote par bureau de vote en indiquant pour chacun des électeurs les données mentionnées sur la carte d'électeur, c'est-à-dire photo, nom, poste, nom, date et lieu de naissance. Adresse, professeur Jacques Ndjoli. On va y aller aspect par aspect. On va commencer par l'aspect politique. L'opposition demande d'avoir accès au serveur central et demande la publication du fichier électoral et déplore le fait que la CENI fait la sourde oreille à ses revendications. Bref, l'opposition demande la transparence du processus électoral. Et c'est ça même qui est à la base de la marche d'aujourd'hui organisée par l'UDPS. Une marche qui a été réprimée. Nous sommes à 10 jours de la clôture du dépôt de candidature. Pourquoi n'y a-t-il pas de suite à leurs revendications?
Merci beaucoup, madame. Le processus électoral, pour être crédible, pour être apaisé, doit être transparent. C'est ainsi qu'un des piliers fondamentaux d'un processus électoral crédible, c'est le pilier politique. Sur ce point-là, la CENI a commencé dès le départ dans son travail, avant la mise en œuvre de son calendrier, par consulter le force politique et sociale, ce qui était une grande innovation dans l'architecture de notre système électoral. Et lorsque le calendrier a été publié, nous avons continué ce travail de concertation en bilatéral, en informel, mais surtout nous avons convoqué, n'est-ce pas, le forum des partis politiques qui devait être le cadre dans lequel nous devions continuer d'asseoir ces processus électoraux participatifs, interactifs avec les partis politiques. Vous vous rappelez aussi que nous avons organisé un colloque sur la dynamique des élections apaisées avec les partis politiques, avec la concertation, en concertation avec la MONUSCO. Donc, aujourd'hui, il est établi qu'il y a une volonté de la part de la CENI de travailler pour une démarche participative et consensuelle.
Alors, les jours passent, professeur Jacques Ndjoli. Les revendications de l'opposition sont là, c'est avoir accès au serveur. Ça fait plus d'un mois qu'ils ont posé ce problème et il n'y a pas de suite. Est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part responsable de toutes ces marches de l'opposition à travers le pays?
Avec l'opposition, le premier contact, comme je vous ai dit, ont commencé au Palais du Peuple, où ils ont posé des préalables. L'opposition a à cet effet transmis à la CENI une série de revendications au point 10. Et parmi ces 10 revendications, il y a cette problématique d'accès aux serveurs et à l'audit des fichiers électoraux, ce qui est une revendication légitime. En effet, un des points forts susceptibles de faire évoluer négativement ou positivement un processus électoral, c'est la maîtrise de la liste électorale. C'est ce qui vous donne la capacité de savoir gagner, parce que c'est la liste des électeurs, donc c'est qui décide. Sur ce point-là, la transparence commence au niveau de l'inscription. Il est important que les partis politiques, et nous avons insisté là-dessus, devaient déployer leurs témoins et les observateurs, ce qui était une grande carence déjà à l'époque. Ensuite, lorsqu'on enrôle, au jour le jour, les listes sont affichées dans chaque centre d'inscription, ce qui permet à tout le monde, y compris les partis politiques qui ont les témoins, mais aussi l'opinion, de suivre qui sont enrôlés, parce qu'on affiche les photos, la date de naissance et l'adresse. Et c'est autour, n'est-ce pas, de cette publicité ou de cette publication qu'il est possible d'asseoir un contentieux préélectoral. À ces niveaux déjà, il est permis par la loi aux partis politiques de pénétrer même le programme informatique qui est mis en place par la structure organisationnelle des élections. Il y a eu très peu de réclamations. Et il s'est posé un certain nombre de problèmes. Vous avez suivi la situation des enfants enrôlés, des militaires enrôlés, notamment à Calémier. Et à ce niveau, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite. Au fait, ces enrôlés profitaient, n'est-ce pas, de permissivité, voire de délinquance, n'est-ce pas, des services de l'État qui donnaient des attestations de naissance fausses ou alors des cartes d'élèves bricolées. avec des dates. Et à partir de ce moment-là, la machine ne peut qu'accepter. Mais là aussi découle notre responsabilité collective, à savoir des agents de la CENI, mais aussi des témoins et autres personnes qui peuvent, n'est-ce pas, détecter ces enfants. Donc, il y a eu ces cas. En ce qui concerne l'enrôlement des militaires, il y a eu quelques cas minimes. Je connais les présidents Dion.
Excusez-moi, professeur, ce sont des irrégularités dénoncées déjà par l'opposition.
Oui,
est-ce que l'opposition aura accès au fichier électoral, au serveur et au fichier électoral?
L'opposition aura, comme toute la nation, aura accès au fichier électoral parce que la loi donne obligation à la CENI de publier cette liste 30 jours avant le début de la campagne électorale. La loi donne obligation à la CENI de publier la liste des électeurs par bureau de vote 30 jours avant le vote. Alors, voilà les obligations légales. Mais aujourd'hui, la question du serveur central qui se pose, vous voulez qu'on en discute?
Allez-y, je vous écoute, professeur.
Voilà. L'opposition a posé un problème sérieux de l'audit du fichier électoral. Et l'audit s'est fait à travers, n'est-ce pas, notre service national de Centre national des traitements, qui reçoit, n'est-ce pas, les listes des différents centres d'inscription et de nos services démembrés. Sur ce point-là, nous sommes totalement d'accord avec l'opposition parce que nous avons demandé que l'opposition puisse désigner deux techniciens informaticiens parce qu'il s'agit d'une question éminemment technique et que la majorité en fasse autant. Et ces quatre techniciens vont travailler avec les techniciens des centres nationaux de traitement pour, n'est-ce pas, auditer, encore concentrant sur les termes audités, parce que nos amis de l'opposition...
Mais l'opposition est déjà prête avec ces techniciens, le problème se pose au niveau de la majorité. Si la majorité n'accepte, n'envoie pas ces techniciens, qu'est-ce qui va se passer?
Ah, mais c'est vous qui m'apprenez que l'opposition est d'accord. Nous avons posé, la dernière réunion que nous avons eue avec l'opposition, s'est terminée pratiquement dans une forme d'incompréhension, c'est-à-dire que nous avons fait cette proposition, ils ont accepté, et hier, apparemment, ils nous ont proposé qu'on passe des 2 à 4 ou à 5, ce qui ne nous pose pas de problème. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons lancé un communiqué pour que nous puissions nous retrouver, l'opposition, la majorité, à un forum le 8 septembre, pour que nous puissions avaliser toutes ces propositions. Donc, je crois que sur le plan de la discussion, sur le plan de la méthodologie, nous sommes pratiquement à un compromis.
Professeur, merci. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes professeur et coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Nous dressons le bilan du processus électoral à 10 jours de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives. Quel bilan vous vous dressez de ce processus électoral avec toutes les revendications que nous connaissons aujourd'hui de l'opposition sur le fichier électoral et le serveur?
Oui, je crois que avant toute chose, il va falloir féliciter l'équipe qui dirige la CENI, puisqu'il y a quand même un travail qui s'est fait. Je crois que l'enrôlement et tout ce qui est fait jusque-là n'était pas en fait envisageable au regard de la précipitation avec laquelle la CENI devait s'engager dans le processus. Mais il convient quand même de féliciter ce travail qui a, évidemment, il va falloir les signaler, connu beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je crois que le vice-président de la CENI vient de le souligner, qui a eu pas mal de problèmes, parfois de flagrances, et on n'y revient pas, mais je crois que d'une manière générale, il va falloir les féliciter. Mais ce qui étonne, c'est que pratiquement la CENI a pris l'habitude de ne pas assez bien répondre aux revendications de l'opposition. Moi, c'est ce qui m'étonne, pratiquement la tétitesse avec laquelle la CENI traite ses revendications. Il faut une pression, il faut que la rue gronde, il faut que les gens meurent, qu'on puisse brûler, casser des histoires pour que la CENI réponde. Je pense que c'est un mauvais climat qui se crée avant qu'on puisse passer au vote, et cela essaie un peu pratiquement de remettre en cause et la crédibilité, l'impartialité de la CENI. Je crois que il va falloir y avoir nécessité de beaucoup d'efforts et de souplesse de la part de la CENI pour ces problèmes réels que l'opposition pose et qui sont aussi des problèmes dont a besoin la majorité, puisque tout celui qui veut gagner les élections ne peut pas souhaiter qu'il s'en suive des contestations et des violences. Tout le monde voudrait bien gagner dans toute la transparence et à bonne et due forme, mais je crois que notre démocratie pourra sortir pratiquement grandie.
Alors, professeur Arsène Mouaka, vous avez suivi le prof Joly par rapport aux revendications de l'opposition. Il dit que tout le monde, l'opposition, tout comme la population, aura accès au fichier électoral 30 jours avant les élections. Et au cas où il y aurait des contestations ou des irrégularités par rapport au fichier qui sera, aux listes électorales qui seront affichées, qu'est-ce qui pourrait se passer d'après vous?
Oui, je crois que si la loi a prévu qu'il va falloir y avoir, qu'il faut 30 jours pour qu'on accède à ces fichiers, eh bien on a qu'à se soumettre à la loi. Mais sinon, ça paraît irréaliste au regard pratiquement de la superficie du pays, de l'accès de la population à l'outil informatique. Il est très vrai que la transparence exigeait que nos partis politiques puissent déployer des témoins dans tous les bureaux, mais il est très clair qu'aucun parti politique ne peut prétendre l'avoir fait, que ce soit les partis de la majorité ou les partis de l'opposition, d'abord puisque ça exige un personnel important, puisque nos partis généralement sont presque creux et n'ont pas assez de membres, mais aussi cela exige un bilan, un budget auquel parti ne peut faire face. Et je crois que de ce point de vue-là, il serait peut-être irréaliste de croire que cela pouvait en fait assurer la transparence du processus. Mais je crois que la revendication qui consiste à rendre public les fichiers, c'est une revendication normale, et qu'on mette toute la liste en ligne et qu'on donne la possibilité de dénoncer des cas de flagrance où pratiquement des enfants, des militaires, et je crois que le vice-président l'a attesté, se sont enrôlés. Je ne pense pas qu'à 30 jours qu'on puisse terminer pratiquement toute la République, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on accélère les choses pour éviter que nous puissions aller dans le vote, dans la cacophonie.
Alors vous allez rester en ligne, professeur Arsène Mouaka, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kassai-Oriental.
Oui, je suis Marcel Kazadi, Mbujimayi, province du Kassai-Oriental. L'audit d'une base de données sur un serveur qui contient 32 millions de lecteurs n'est pas une opération à faire dans quelques minutes. En fonction des environnements informatiques diversifiés, cette opération peut demander du temps ou même des outils logiciels appropriés. Et bref, il faut connaître exactement ce qu'on cherche et tenir compte des contraintes diversifiées. Nous pensons qu'exiger à la CENI de faire cette opération à quelques jours de la clôture des dépôts des candidatures, c'est créer des retards inutiles dans le processus. Sans oublier qu'au moment des enrôlements, les témoins des partis politiques ont été présents dans les centres d'inscription pour vérifier les éventuelles irrégularités.
Professeur, réaction?
Oui, bon, je ne pense pas qu'on puisse retirer le droit de toute la population et même des partis politiques à pouvoir vérifier les listes. Bon, ce qui est très vrai, c'est que quand même 32 millions, c'est quand même beaucoup de gens. Et donc, il ne sera pas, la tâche ne sera pas aisée. Mais je crois que le professeur Joly l'a dit, ce n'est pas un travail de tout le monde, c'est un travail technique, un travail qui demande que des spécialistes en informatique puissent se mettre, et peut-être avec l'aide des logiciels et autres, on pourra peut-être accélérer le travail. Mais je crois quand même que 30 jours risquent d'être suffisants, et de ce point de vue, on ne peut pas demander à l'opposition aujourd'hui qui revendique de faire ce que la majorité n'a pas pu faire, c'est-à-dire mettre des termes vraiment dans tous les bureaux de vote. Donc, tout le monde a intérêt que le processus soit transparent et le pays en a beaucoup besoin. Je crois qu'il ne faut pas faire souffrir le pays et en fait faire souffrir notre démocratie. Il va falloir que l'on puisse en fait procéder par des concertations et rapidement décanter la situation.
Merci professeur Arsène Mwaka, professeur Bob Kabamba. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quel bilan vous dressez du processus électoral à 10 jours de la clôture du dépôt des candidatures?
Merci beaucoup pour la question. Madame, il faut, je pense, pour un premier bilan, d'abord commencer par le péché originel. Le péché originel du processus commence avec la mise en route de la CENI qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard pour être d'abord mise en place. Alors, dès que la CENI a été mise en place en retard, elle se bat pour essayer de rattraper un retard qui est dicté par les délais constitutionnels. Et de ce fait, la CENI travaille, est en train de travailler pour essayer de rattraper un retard qui malheureusement est irrécupérable. C'est-à-dire, quand on parle des opérations électorales, quand on parle d'un processus électoral, ce n'est pas des miracles. Le processus électoral, c'est mathématique. Il y a des délais, il y a toute une série de données techniques qu'on ne sait pas comprimer et sur lesquelles la CENI peut faire ce qu'elle veut. Elle ne va pas arriver à organiser les élections le 28 novembre de cette année. Et de fait, même quand je regarde le même calendrier qui a été publié par la CENI, par le bureau de la CENI, et en fonction des ajustements qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure, les délais ainsi que tous les autres délais constitutionnels et légaux qui sont dans les différents textes, la CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections le 28 novembre. Alors, de ce fait, comme la CENI est en train à chaque fois de courir derrière le temps, elle ne prend pas suffisamment de temps aussi pour expliquer et aider les partis politiques à s'approprier le processus électoral. Et que si les partis politiques ne s'approprient pas ce processus électoral, on va aller vers la catastrophe. C'est-à-dire que l'on va organiser des élections qui risquent d'être bâclées et mal organisées et avec les conséquences que l'on peut imaginer sur la légitimité des institutions et sur la légitimité des animateurs qui seront élus par un processus qui sera contesté. Je vous donne un exemple. Lorsque l'on parle effectivement du nettoyage, du lifting, mais je donne raison à l'opposition parce que tout simplement, vous n'avez qu'à regarder les chiffres publiés par la CENI elle-même. Lorsqu'elle publie les chiffres qu'elle envoie au Parlement pour la répartition des sièges, ces chiffres sont différents en fonction des périodes. Entre les périodes qu'elle-même elle publie et les chiffres qu'elle-même elle envoie sont différents. À certains endroits, c'est plus, à certains endroits, c'est moins. Alors que l'on sait que lorsque l'on nettoie le fichier, il doit y avoir certainement beaucoup moins d'électeurs que plus d'électeurs. Et donc, il y a ces anomalies-là qui sont là, qui sont constatées tous les jours. Alors, lorsque l'opposition revendique pour essayer d'avoir plus de clarté, il y va, je pense, la CENI, de pouvoir aider justement cette opposition, pas seulement l'opposition d'ailleurs, je pense aussi les gens de la majorité présidentielle, demandent aussi à avoir une certaine clarité, une certaine transparence pour que le processus soit approprié par les acteurs, par les premiers concernés qui sont dans un premier temps d'abord les électeurs, la population, la RDC en général, mais aussi les partis politiques qui doivent être candidats pour pouvoir exercer, pour pouvoir être les représentants de ce peuple. Et donc dès l'instant que la CENI court derrière son retard, elle ne fait pas la concertation avec les partis politiques, elle n'aide pas les partis politiques à s'approprier le processus, et donc il faut que la CENI accepte qu'elle ne sera pas en mesure d'organiser les élections le 28 novembre, qu'elle en tire les conséquences, qu'elle essaye de refaire et de reprendre le processus en aidant justement les partis politiques et la population à s'en approprier. Et ça me semble capital et indispensable. Un dernier mot pour juste terminer. J'ai pris le calendrier électoral. J'ai mis les chiffres et les dates publiées par la CENI elle-même. Ça m'étonne que les élections, en fonction de tous les calendriers, c'est-à-dire publication des listes provisoires, contentieux, listes définitives, commandes de bulletins, etc., etc., campagne électorale, moi je tombe que les élections pourraient être organisées le 18 décembre 2011, en fonction de ce que la CENI elle-même publie. Et on est très loin du 28 novembre que la CENI a publié. Et donc, moi je pense qu'il va de soi, il va vraiment, c'est capital que la CENI assume qu'elle ne sera pas en mesure d'organiser le 28 et qu'elle mette en place des processus d'appropriation pour que le processus se passe en toute transparence, et c'est tout à fait capital pour la survie même de la Troisième République de la RDC.
Alors, professeur Bob Kabamba, lorsque vous dites que la CENI doit aider les partis politiques et la population à s'approprier le processus électoral par rapport aux revendications de l'opposition, donc la CENI doit laisser l'opposition faire l'audit du fichier électoral?
C'est bien plus que ça, madame. C'est bien plus que ça. S'approprier un processus électoral, c'est-à-dire que lorsque les décisions sont prises par le bureau de la CENI, il y a simplement une demande de concertation entre les acteurs, entre les partis politiques, qui peuvent, de manière très claire, la CENI, je pense qu'elle peut, il y a quand même des gens compétents comme le professeur Njoli, qui est quand même un collègue, qui peut expliquer clairement, parce que le processus électoral, c'est mathématique, ce n'est pas de la magie, c'est mathématique, vous ne pouvez pas comprimer un délai de 7 jours du contentieux, par exemple, des listes des candidats. C'est équivalent, c'est 7 jours, vous ne savez pas comprimer ces 7 jours. Vous voulez imprimer des bulletins, il y a beaucoup de candidats. Comme il y a beaucoup de candidats, pour imprimer des bulletins, ce n'est pas en 3 semaines que vous allez imprimer les bulletins, ce n'est pas en 2 semaines que vous allez dispatcher tous les bulletins, il faut plus de temps. Et je pense que la CENI peut tranquillement expliquer les différentes étapes et chaque fois associer dans les prises de décision et en toute transparence, prendre aussi non seulement la population, mais aussi les partis politiques pour qu'ils soient partie prenante dans les différentes décisions. Par exemple, est-ce qu'il a fallu que le Sénat prenne une motion pour demander à la CENI de pouvoir prolonger le dépôt des candidatures jusqu'au 15 septembre pour que la CENI accepte de faire jusqu'au 11 septembre. Alors que si la CENI avait pris les choses préalablement, elle aurait pu, de manière adulte, concertée avec les partis politiques et de manière publique, expliquer qu'effectivement, ce n'est pas possible de pouvoir déposer les listes dans les conditions telles que ça a été fixé, et de pouvoir concerter les partis politiques et les associer dans cette dynamique. Je ne vois pas comment la CENI pourrait s'en sortir si elle n'applique pas cette méthodologie très simple.
Merci, professeur Bob Kabamba, prof Jacques Njoli. Est-ce que la CENI sera en mesure d'organiser les élections le 28? Le 28 novembre, les élections auront-elles lieu en RDC?
Bon, la CENI... Avant toute chose, je voudrais d'abord saluer le professeur Kabamba, et je crois qu'il assume la responsabilité de ce choix, de dire que lui, il veut plutôt les 18 décembre plutôt que le 28 novembre, ce qui est une hypothèse. Mais nous, nous sommes partis d'une hypothèse purement constitutionnelle qui nous exigeait, n'est-ce pas, d'organiser les élections avant le 6 décembre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le caractère contraignant de ces calendriers est évident, comme il a dit, étant donné que les acteurs politiques ont pris plus de 6 ou 7 mois pour faire des chicaneries sur les personnes qui devaient diriger la CENI. Mais quand cela ne tienne, nous avons discuté de ces calendriers avec les acteurs politiques. Donc, en ce qui concerne la méthodologie participative, la CENI a plutôt des leçons à donner aux uns aux autres. Parce que c'est nous qui avons commencé à faire le tour de cette ville pour consulter tous les partis politiques. Et lorsque nous arrivons à ces discussions sur les préalables, c'est la CENI qui a ouvert ses portes à l'UDPS et aux autres partis politiques. C'est nous qui avons convoqué les partis politiques au Palais du Peuple. Et c'est nous qui sommes, depuis le 29 juillet 2011 jusqu'à ces jours, en concertation avec l'opposition politique. C'est nous qui avons reçu 4 mémos et qui répondent à ces mémos, et c'est la CENI qui est en train de travailler avec les partis politiques de l'opposition, eux du pouvoir, pour asseoir un cadre de concertation. La loi impose qu'il puisse y avoir un cadre de concertation pour, n'est-ce pas, asseoir et déployer les schémas électoraux. Et nous nous y mettons tant bien que mal.
Alors,
autre chose, laissez-moi dire. Lorsque le professeur Kamba parle de chiffres, je ne sais pas de quels chiffres il parle. Nous, nous avons dit que les données collectées, alors qu'on prévoyait 31 millions, nous sommes arrivés à 32 144 580 000 enrôlés. Et nous avons donné pour chaque province, après un nettoyage par la société Hologramme et ZTS qui est venu à l'appui, nous sommes arrivés à 32 024 640. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, il est important et chacun de nous assume ses responsabilités. Et nous, nous sommes convaincu que ce processus électoral appartient d'abord aux Congolais. Les fichiers électoraux appartiennent aux Congolais dans la mesure où la loi nous le permet de travailler avec. Lorsque on nous demande, en termes d'implication, de segmenter le code d'accès au système et que de donner une partie du code à l'opposition et une partie du code à la majorité, nous savons plus de quoi on parle. Ce que nous demandons, c'est que l'opposition et la majorité accèdent au Centre national de traitement pour travailler et maîtriser avec nos techniciens l'ensemble des méthodologies, des logiciels qui sont utilisés. Et pour ça, il faut maîtriser l'outil informatique.
Alors, professeur, parlons du calendrier électoral. Vous avez rajouté 10 jours par rapport à la clôture du dépôt des candidatures. Est-ce que ça n'aura pas une incidence sur le calendrier?
Non, nous n'avons pas rajouté 10 jours.
La clôture était prévue pour le 5. Maintenant,
oui,
on va jusqu'au 11.
Et il y a 5 jours qui sont prévus ou qui étaient prévus comme moment d'ajout, de retrait ou, n'est-ce pas, de substitution des listes. Et ces 5 jours-là, nous permettons aux partis politiques, n'est-ce pas, de déposer les candidatures. À ces jours, madame, sur l'ensemble de la République, il n'y a que 42 candidats députés nationaux qui ont déposé leur candidature. La CENI a été à l'écoute, et la CENI, en écoutant le Sénat, mais interagit en termes institutionnels. Nous avions prévu qu'on puisse déposer les candidatures au niveau des antennes. Aujourd'hui, on peut déposer dans le chef-lieu de province. On a des difficultés en ce qui concerne les institutions financières pour avoir les titres. Nous avons permis qu'on puisse le faire même à Kinshasa. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de diplôme universitaire. Nous acceptons les attestations de fin d'études. Le regroupement politique, nous les acceptons. Donc, moi, je crois que il y a des efforts à faire et il y a des contraintes majeures.
Lesquelles, par exemple?
Notamment ces contraintes du temps qu'a soulevé le professeur Kabamba, mais qu'il faut gérer avec responsabilité. Donc, il n'appartient pas à la CI ni de convoquer le Parlement pour changer les cycles des institutions.
Merci, professeur Jean Joly. Je vais vous repasser la parole. Professeur Arsène Maka, on a rajouté 10 jours pour le dépôt des candidatures. Comment vous pouvez expliquer ce non-engouement dans les bureaux des dépôts réception des candidatures, alors que beaucoup des candidats sont déjà connus?
Oui, bon, je crois qu'il y a beaucoup d'états-majors politiques. Non seulement que les acteurs principaux sont encore en session, notamment j'ai cité les anciens députés, mais aussi il va falloir souligner que tout le monde va se précipiter, donc il va falloir attendre les derniers jours pour voir l'engouement. C'est pas nouveau au Congo, et donc on ne fait pas les choses à temps et on le fait toujours en retard. Je crois que là, ce n'est pas une chose à imputer à la CENI, c'est lié aux concertations et aux cogitations dans les états-majors des partis politiques. Mais moi, j'aurais bien voulu écouter du professeur Joly, parce que lui-même a reconnu que l'opposition avait déposé 10 revendications. J'aurais bien voulu savoir quelle réponse ferme la CENI a donnée à chacune de ces revendications, et sur 10, combien de revendications ont été satisfaites, parce que cela nous ferait avancer. Et évidemment, il a parlé du temps, et je crois que ça va être une contrainte majeure. Le professeur Bob Kabamba l'a suffisamment souligné. Je crois qu'il y a eu pas mal de rapports assez pessimistes sur le respect du délai. Je crains qu'on tombe dans une catastrophe si seulement on ne gérait pas le temps avec responsabilité. Et donc, je souligne ici que les concertations politiques vont être assez importantes et la CENI ne devrait pas attendre la rue.
Alors, professeur, vous personnellement, vous pensez que la CENI sera dans le temps par rapport au respect du calendrier électoral?
Oui, bon, je crois que c'est la CENI qui doit le mieux répondre, mais au regard
de tout ce
qu'il faut faire d'ici le 28 novembre de cette année, je crois que ça paraît un peu irréaliste. Bon, mais continuer à avoir la bonne foi pour souhaiter que ça se passe. Mais apparemment, comme le professeur Joly l'a souligné, la maîtrise du logiciel, la compréhension et autres, les explications et finalement la bonne méthode pour contrôler tout et tout, ça demande du temps. Ça demande suffisamment de temps passé à revue 32 millions de personnes. Ça demande du temps et donc au risque de repousser ce délai, il y a ces risques-là.
Professeur Bob Kabamba, par rapport à la réponse du prof Jacques Njoly à toutes les questions que vous êtes posées.
Oui, merci beaucoup pour la question. Et donc, je voulais dire à mon cher collègue que lorsque ce n'est pas une hypothèse que je fais ni je ne fais pas une hypothèse. Je prends en fait les délais légaux, c'est-à-dire les délais qui sont dans la loi électorale. Je prends effectivement le calendrier électoral qui a été publié précédemment par la CENI et j'essaye de mettre, de respecter les délais légaux avec les différentes dates qui sont données par la CENI elle-même. C'est mathématique, madame, comme je l'ai dit, c'est mathématique. 5 jours, 7 jours, 2 jours, recours, etc., etc. Et lorsque je fais uniquement la comptabilité de ces différents délais, je ne tombe pas le 28, je tombe le 18 décembre. C'est simplement ça, c'est mathématique. Je crois que collègue Joly le sait très bien que c'est mathématique. Et donc il s'agit simplement de faire cette compilation. Et c'est pas une hypothèse, c'est uniquement les textes légaux par rapport à ce qu'il y a dans les textes et en fonction des décisions qui ont été prises par le bureau de la CENI. Alors je voudrais aussi quand même réinsister quand même pour sur la question de l'appropriation du processus, et que c'est vraiment indispensable de pouvoir arriver effectivement à ce que les partis politiques soient s'en approprient. Parce que si ça reste une espèce de microcosme entre quelques personnes qui restent, qui s'approprient uniquement les processus, et comme mon collègue l'a dit, professeur Njoly, que c'est d'abord une histoire des Congolais. Et donc il l'a lui-même très bien dit, c'est une histoire des Congolais. Or, il faut permettre à ce que les Congolais n'aient pas de doute sur le processus. Il faut que le Congolais sache effectivement s'en approprier et qu'il sache voilà comment on a nettoyé et comment on a fait la répartition de sièges, comment ça a été calculé et comment on a décidé par rapport à ceci, comment on a décidé par rapport à ça. Ce n'est pas question de cacher quoi que ce soit, c'est uniquement informer pour que les gens sachent de ce qu'il y a et que les gens s'en approprient. C'est vraiment indispensable dans tout processus électoral, cette dimension d'appropriation est fondamentale et je voudrais vraiment que mon collègue Joly, vice-président de la CENI, s'approprie aussi de cette problématique, de pouvoir vraiment aider la population et les partis politiques à s'approprier le processus.
Merci professeur Bob Kabamba. Professeur Jacques Njoly, parlons de l'aspect financier et logistique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à la logistique? La CENI est-elle prête logistiquement et financièrement?
Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que pour la CENI, il n'y a pas de questions taboues ou des dates taboues. Lorsqu'il nous arrivait de constater que nous avons effectivement des difficultés, nous le dirons dans cette perspective d'appropriation et de redevabilité au peuple. Il est un fait que je suis peut-être faible en mathématiques depuis l'école primaire pour faire des compilations de dates, mais je crois qu'au niveau de services techniques de la CENI, un travail a été fait. Il y a des mécanismes de chevauchement que nous avons essayé d'appliquer. Ceci étant dit, l'important aujourd'hui, c'est que la CENI a pu d'abord faire une révision de 32 millions d'électeurs, ce qui éprouve, n'est-ce pas, l'engouement de cette population. Et chaque jour, lorsque nous rencontrons cette population, elle est décidée, n'est-ce pas, à dire son mot sur les devenirs politiques et institutionnels de ces pays dans la désignation, n'est-ce pas, de futurs cadres de ces pays. Ce qui concerne la question logistique, c'est une question fondamentale. Nous avons travaillé sur les délais classiques, essentiellement dans l'acquisition de moyens et des outils. Ce qui concerne les moyens financiers, au départ, nous avons travaillé sur une équation 60% de ressources venant du gouvernement et 40% des partenaires internationaux. Les contraintes du calendrier nous ont imposé de recourir à des outils technologiques beaucoup plus performants. Par exemple, dans la transmission de données, il fallait acquérir un réseau VSAT. ça nous a exigé pas moins de 15 millions, ce qui nous permet de raccourcir les délais de transmission des données par rapport à 2006. Deuxièmement, au niveau de réception des traitements de candidature, là aussi nous avons recouru à l'outil informatique pour avoir un logiciel qui nous permet, n'est-ce pas, de transmettre en instantané les candidatures enregistrées en province qui sont traitées à Kinshasa. Et troisièmement, en termes de maîtrise des délais logistiques, les gouvernements et la CENI ont fait l'effort pour que les urnes qui seront commandées ou qui sont commandées en Europe, les isoloirs qui sont commandés à l'Asie, et le bulletin qui sont commandés en Afrique du Sud, ne viendront pas en République démocratique du Congo par voie maritime. C'est par voie aérienne, ce qui impose une explosion pratiquement de coûts. Mais ça nous permet de réduire les délais.
Les kits sont déjà achetés, professeur Jacques-Antoine?
Les kits sont déjà commandés et pratiquement payés à moitié, et le reste va suivre. Donc, ce qui nous fait que nous réduisons les délais.
Donc, sur place, on n'a pas de kits, on n'a pas encore de kits sur place, en RDC.
Mais vous allez faire quoi avec le kit, les isoloirs maintenant? Il y a un délai de déploiement sur 15 hubs principaux et sur 210 sous-hubs et sur 62 000 bureaux de vote. Alors, il y a des amis qui parlent de 74 000 bureaux de vote. Ce sont des études peut-être qu'ils ont. Mais aujourd'hui, on est à 62 000 bureaux de vote. Et lorsque d'autres amis demandent aujourd'hui qu'on leur donne la cartographie de ces bureaux de vote, nous sommes aujourd'hui en termes d'implantation et de fixation. Donc, tous ces éléments seront mis à la disposition des acteurs politiques dans le cadre de concertation.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, professeur.
Et c'est le cadre de concertation qui est l'élément fondamental dans lequel la majorité, l'opposition va se retrouver. Et ensuite, nous sommes en train de convoquer le mécanisme de concertation avec la société civile, avec les médias, pour que nous puissions avancer dans un partenariat de transparence et d'appropriation.
Je vous redonne la parole tout à l'heure, professeur Jacques Ntoli. Professeur Arsène Mouaka, un mot sur la logistique.
Oui, en fait, je crois que sur la logistique de la CENI, il y a beaucoup à dire, d'autant plus que tout s'est fait à dernière minute et tout ressemble au business où il faut commander des histoires à l'extérieur. Et généralement, des choses qui étonnent, des téléphones à usage unique, des véhicules 4x4 à usage unique, et tout est à usage unique. Et finalement, on recommence et on répare, et aux prochaines élections, ce sera encore la même chose. À dernière minute, on va commander la même chose. Je crois que il va falloir que les acteurs politiques, la CENI, notre gouvernement se concertent pour carrément qu'on puisse s'efforcer à ne plus refaire la bêtise où pratiquement les machines, laptops soient isogéniques et le tout disparaît au lendemain des élections.
Merci,
je crois que c'est inacceptable.
Merci, professeur.
Il est clair apparemment que tout n'est pas là. Et je crois que le professeur Joly l'a dit à moitié, les choses sont commandées et payées à moitié.
Merci, professeur, malheureusement, je suis obligé de vous retirer la parole. On n'a plus beaucoup de temps. Professeur Bob Kabamba, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, donc je vais répondre en même temps sur votre question sur la logistique qui conditionne effectivement les respects des délais. Et quelques chiffres, est-ce que la CENI a actuellement plus ou moins 40 avions qui vont faire la rotation du déploiement des différents matériels électoraux? Est-ce que la CENI a plus ou moins une cinquantaine d'hélicoptères qui vont essayer de prendre le relais avec autant de jeeps, autant de camions qui vont faire le relais et tout le travail? Je ne pense pas que la CENI a tous ses moyens à disposition. Et de ce fait, la logistique aussi va peser dans la tenue de calendrier qui ne sera pas respecté, comme je l'ai dit précédemment.
Merci, professeur Kabamba.
Je voudrais rassurer le professeur Kabamba que la CENI a 210 pick-up qui sont en train d'être implantés. La CENI a plus ou moins 150 camions qu'elle a acquis, qui sont en train d'être déployés. La CENI ne peut pas avoir 40 avions parce que même la République démocratique du Congo n'a aucun avion officiel. Et la CENI ne peut pas avoir des hélicoptères puisque les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous recourons au même partenaire qu'en 2006, c'est-à-dire les gouvernements des États voisins. notamment l'Afrique du Sud et l'Angola, comme on a fait en 2006. Donc il ne faut pas créer des mythologies autour de cette question. Merci beaucoup.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu et Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebjangwe. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique au micro. Kéline Kouté, bon suite de programme sur la fréquence de la paix.